9h dans le bureau de Par Jupiter.
Alex, t'as regardé le film avec notre invité, Déborah Lukumuena?
Mais carrément, et ça m'a donné une idée, mon vieux.
Quoi, tu veux faire assistant, babysitter et garde du corps?
Oui, oui, oui.
Une star vieillissante comme Gérard Depardieu dans le film?
Presque. Je pense à une autre star, certes d'une génération un petit peu dépassée, mais une star de la radio.
Ah, Laura Adler.
Mais non, Charline Vanhoenacker.
Ah, mais attends, tu crois qu'elle en a besoin?
Mais elle vient de revenir à l'antenne, ça va lui faire énormément de bien.
Attends, elle arrive, elle arrive.
Je prépare un beau sourire bienveillant.
Bonjour les amis.
Bonjour Charline. Tu veux un petit café?
D'orange.
Des croissants, des amandes.
Des croissants aux amandes.
Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, vous avez fait une connerie.
Ben non, pas du tout.
Mais non, on se disait juste que tu avais besoin d'un petit peu de soutien pour te réadapter à la vie de bureau.
Et on se disait que les mieux placés pour te soutenir, c'était nous.
Là, vous commencez plutôt à me taper sur les nerfs.
Oh, t'as raison, elle est sur les nerfs.
Tu veux qu'on t'aide pour l'interview de l'invité, Charline?
Certainement pas.
Et pour le choix des sons, peut-être?
Guillaume, t'as pas trouvé un seul son depuis 1972, alors non, si vraiment vous voulez me faire plaisir, ce serait bien aussi que vous fassiez quelque chose pour cette conf de rédac, là.
Elle est très bien, la conf de rédac.
Oui. Ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relâché pendant mon absence.
Mais pas du tout, on a tout donné, on a été hyper drôle.
Mais arrête, Charline, tu vas le déprimer, là.
C'est trop tard. Non, mais j'ai compris. Oh là là. Je suis sec, je suis plus inspiré. Je suis plus à la hauteur de mes fans.
Voilà, c'est de lui qu'on va devoir s'occuper maintenant.
Alex, un croissant, des amandes, un croissant aux amandes. France Inter et bienvenue chez les petits orfèvres de la potacherie. Voici la devise du jour, un seul être vous manque et c'est rien à côté du nombre de signatures qu'il manque à Le Pen. L'accident de chasse menace chaque week-end les cyclistes, les joggeuses, les randonneurs. Une jeune chasseuse de 17 ans vient d'être mise en examen pour avoir tiré accidentellement sur une randonneuse de 25 ans. En France, on peut chasser à partir de 16 ans. Dès l'adolescence, on peut officiellement jouer avec le feu.
Willy, qu'est-ce que tu fais?
La nitroglycérine.
C'est bien. Mais tu ronges tout quand t'as fini, hein?
Les Oscars en perte d'audience ont annoncé que le public pourrait voter lors de la prochaine cérémonie qui aura lieu le 27 mars. Voter pour son film favori, ce qui devrait permettre de couronner un blockbuster et son super-héros. Et le peuple majoritaire reprit le pouvoir.
Mais alors, quel rapport?
C'est la majorité.
Non, c'est la majorité, mon vieux, c'est tout. Et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle d'abord?
Le chanteur Gims a été nommé ambassadeur. De Valérie Pécresse? Non. De la rumba congolaise, un titre accordé par le président de la RDC à Gims et son frère Dadju. Mais le public proteste car ces deux artistes ne sont pas des chanteurs de rumba.
Vous êtes conscient que c'est vraiment un gros foutage de gueule?
J'ai bien l'impression. Aujourd'hui, à mes côtés, aujourd'hui, sans transition, le fameux Alex Vizorek.
Et oui, aujourd'hui, à vos côtés, bien sûr. Bonjour Charline Vanhoenacker et toute belle équipe, évidemment, pour vous accompagner. Un boys band, j'ai envie de dire.
Ah oui.
À 17h20, celui qui parfois raconte des salades. Mais quand c'est lui, c'est drôle puisque c'est les salades de poulpe.
Cette vanne est bien vinaigrée, Alex.
De quoi on va parler?
On va parler, j'ai l'enregistrement de la conversation entre Poutine et Macron. Voilà, donc ça c'est du journalisme.
L'investigation, il était temps qu'on en ait un dans l'équipe à 17h30. L'homme qui ausculte la France. Et parfois quand on voit ce qu'il trouve, on a envie de dire l'homme qui coloscope la France. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour tout le monde, je vais vous parler de chasse aujourd'hui. Je vais vous parler d'interdire la chasse. Je suis allé voir des chasseurs, mais aussi des anti-chasses.
Je suis contre la chasse excessive.
Voilà, plutôt pour une tuerie, mais modérée.
Et à 17h40, notre monsieur cinéma à nous, le Pierre Tchernia 2.0, Léo Magic Carman. Avec nous, de quoi on va parler?
Moi, si je devais résumer ma chronique aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi.
Oui. Et ça, hommage.
Ouais, bien sûr.
Merci, Léo Hubert Carman.
Et voici celle qui va nous enjailler jusqu'à 18h. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes. Vous êtes
Déborah Lukumuena.
Yes.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Déborah Lukumuena.
Merci.
Vous êtes actrice, le public vous découvre en 2017 dans Divine, un film de Ouda Benyamina. C'est à l'époque votre premier film qui vous permet de décrocher le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Vous entrez ensuite au Conservatoire National d'Art Dramatique et vous voilà à l'affiche à présent de Robuste, premier film de Constance Meyer dans lequel vous tenez le rôle principal et vous donnez la réplique à Gérard Depardieu avec lequel vous formez un duo dans ce film. Alors votre personnage, Aïssa, est agent de sécurité et vous arrivez au service d'un acteur vieillissant qui s'appelle Georges, qui est très seul, angoissé, voire névrosé, incarné par Gérard Depardieu. Votre personnage de jeune fille dans la sécurité et qui fait de la lutte en compétition, elle est robuste, Gégé, il est robuste, comme le titre du film. Déborah, vous avez la réputation de faire des choix très stricts et très réfléchis dans les scénarios qui vous sont proposés. Pourquoi est-ce que pour vous, il était important que ces deux personnages se rencontrent à l'écran ?
Je choisis mes films juste, mais vraiment de manière très égoïste. Si ça me plaît, si ça me plaît pas, je me pose toujours la question, c'est que si je faisais pas du cinéma, est-ce que j'aimerais voir ce film à l'écran? Et du coup, j'ai répondu oui à tous les films auxquels j'ai fait. Et du coup, non, en fait, je pense que c'est important que ces deux personnages se réunissent par rapport à ce que le scénario raconte. En fait, ce titre robuste, il est bien sûr pas, ce n'est pas une, C'est bien sûr fait exprès, c'est avant tout deux personnes au corps massif, deux solitudes, qui derrière toute cette robustesse justement se découvrent des sensibilités et des fragilités. Et je trouve que même si on n'est absolument pas comparables, Gérard et moi, on a chacun ce physique bien massif. Et du coup, le fait qu'on ait joué une connexion profonde, intime et pas forcément éclatante à l'écran, je trouve que ça raconte autre chose et de lui et de moi.
Et la robustesse est mentale aussi. C'est-à-dire que lui est fragile et puis vous, vous avez certaines fragilités aussi, mais vous êtes un peu, il prend un peu ses agents de sécurité pour des nounous, il faut un peu tout faire et le rassurer, etc. Et c'est là où les fragilités se rejoignent. Alors au départ, tout les oppose. Alors qu'est-ce que l'un apporte à l'autre dans ce film ?
Georges, quand Aïssa le trouve, c'est une star de cinéma vieillissante qui se laisse vraiment couler, c'est-à-dire qu'il est entouré de Salah Malek dans lesquels il vit depuis 50 ans. Et en fait, Aïssa, elle arrive avec cette pas une naïveté, mais il y a quelque chose, il y a une fraîcheur qui lui le déconcerte, parce que cette fraîcheur, elle résiste même à l'épreuve du personnage qu'il est, en fait. C'est-à-dire qu'elle reste quand même debout, malgré le fait qu'il la prenne pour un mec, malgré le fait qu'il soit grognon ou qu'il pose des lapins à des rendez-vous. Et en fait, elle le regarde autrement, elle le regarde pas forcément comme une bête curieuse, mais c'est une jeune fille qui a 50 ans de moins que lui et qui le regarde comme quelqu'un avec qui elle pourrait partager justement cette même tendresse. C'est-à-dire que elle le voit comme un être composé de tendresse, de failles. Et je pense que c'est cette espèce de douceur et de tolérance qu'il voit dans les yeux de cette jeune femme qui, du coup, lui est réconfortant pour lui. Et je pense que inversement, lui, il la regarde et la considère autrement, c'est-à-dire qu'elle vit cette histoire d'amour absolument foireuse et il est dans cette moi je pense qu'il la voit plus grande qu'elle ne se voit.
Il la bouscule donc.
Il la bouscule absolument, alors moi ce que j'aime, c'est que le postulat de base pour le personnage de Aïssa, c'est pas un personnage au début qui est sur le déclin, qui va mal. Moi ce que j'ai aimé, et c'est ce que la réalisatrice a proposé, c'est qu'Aïssa, au début, elle est très heureuse avec sa vie. Elle est très heureuse d'avoir son job à la sécurité, d'avoir son histoire d'amour et d'avoir la lutte. C'est juste que, voilà, elle se contente un peu de cette affection que ce mec un peu foireux lui donne. Elle vit sa vie sans s'être vraiment rencontrée. Et du coup, le regard que Georges pose sur elle, c'est les derniers pas vers elle-même, quoi.
Est-ce que quand on joue cette relation-là, et que ce sont deux comédiens qui, évidemment, racontent aussi ça. Vous êtes sans doute la fraîcheur pour Gérard Depardieu. Il est sans doute
c'est ma fraîcheur,
la tendresse
aussi,
un peu rustre. Mais oui. Est-ce que, du coup, on doit s'imposer cette relation qu'ont les personnages en dehors de la caméra ?
C'est-à-dire, pardon.
C'est-à-dire que c'est un peu la même relation que vous avez pu développer avec lui ou
dans
lui
le
avec
travail.
Vous ?
Ah, en fait... Non, parce que c'est resté un grand enfant quand même. Donc vraiment, en fait, c'était une demi-plaisanterie quand je disais qu'il apportait de la fraîcheur. Il fait vraiment toujours le clown alors qu'il a 73 ans. Non, en fait, moi, je dirais, notre relation, on n'a pas eu une amitié, je dirais qu'on a eu un compagnonnage. Non, mais vraiment...
Comme dans l'artisanat.
Oui,
oui, c'est vrai.
Sûrement, je vous fais confiance.
Oui, mais confiance,
on a eu un compagnonnage et on a accompagné ce film ensemble, ce qui fait que c'était pas forcément le même rapport de force, mais il y a eu de la tendresse et devant et derrière la caméra.
Léo, une question ?
Oui, c'était pour revenir un peu sur vos exigences dans les choix de scénario, parce que donc Robuste était un premier film, Divine était le premier film d'Ouda Benyamina, vous avez joué aussi dans le premier film de Julien Guetta, Roulé Jeunesse, il y a quelque chose qui vous attire dans les premiers films, c'est une aventure particulière ?
Ouais, parce que je trouve qu'il y a à la base du premier film, il y a un espèce de cri et d'élan de soif de créer, presque une fureur de créer que je trouve hyper excitante. Même si il m'est arrivé de faire des deuxièmes, des troisièmes films, mais les premiers films déjà, ben tu n'as qu'un seul premier film du coup. Et dis-toi que t'es face à un réalisateur qui a attendu parfois des années, qui a écrit tout seul dans son coin pour enfin justement lancer cette dynamique de création. Et je trouve ça trop beau en fait de voir, surtout. En fait, l'échange est des deux côtés, c'est-à-dire que moi, je raconte une histoire pour les réalisateurs, mais moi, je vois une réalisatrice éclore. Et je trouve ça trop beau. Moi, j'ai trouvé ça super beau de voir Constance créer son histoire au fur et à mesure et de se sentir surprise sur le moment. Donc, c'est aussi pour moi. Après, je vais pas en faire toute ma vie des premiers films, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une rupture de stock, mais voilà.
Film qui sort demain? Exact.
Non, la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Oh. On a envie qu'il sorte plus tôt.
J'avais pas de date sur ma fiche et je me suis dit, allez, je vais sortir une date
au
hasard.
Le 2 mars 2022 à 10h.
Très bien. Mercredi prochain, donc Robuste de Constance Meyer avec Gérard Depardieu, mais aussi Lucas Mourtier, Florence Janas, Steve Tiencheu, Théodore Leblanc et Sébastien Poudrou, s'ils t'ont les tous, bien sûr. On va rester ensemble, Déborah Lukumoena, jusqu'à 18h. Oui. Vous n'avez pas le choix, vous avez commencé. Il faut finir. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Nous sommes en compagnie de l'actrice Déborah Lukumoena, qui joue dans Robuste, film qui sort le 2 mars, c'est mercredi prochain, sur les écrans. Et Alex, pour l'entourer ?
Eh bien, Léo Carman qui va en parler de ce film. Monsieur Poulpe, qui va nous révéler des choses fortes sur cette guerre.
Ah, mais je te disais bien que je t'avais vu quelque part. C'est quoi, Monsieur Poulpe ?
Mais oui, parce que tu me vois dans le caniveau quand tu sors de chez toi, je tourne dans le caniveau et tu fais un signe.
Et attention, Guillaume Meurice est là aussi. Ah, ouais. C'est le vrai. C'est une émission à tiroir.
Et je sais que Déborah, vous attendiez des nouvelles de l'Ukraine, de Poutine, etc. Donc on va y aller. C'est
parti. J'entends l'angoisse de citoyens aujourd'hui qui sont d'origine étrangère, qui sont musulmans,
et qui ont peur, peur d'être renvoyés chez eux.
Le journal de presque 17h17.
Après tout, nous ne sommes pas des communistes.
Si. Non.
Ah si.
Allons. Et on commence par les titres.
Les tentatives d'Emmanuel Macron pour ramener Vladimir Poutine à la raison sont restées vaines.
Oui, en même temps, il avait déjà pas réussi à calmer les ardeurs de Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard, donc on n'avait que peu d'espoir.
En revanche, les députés russes ont approuvé l'accord de Vladimir Poutine avec les séparatistes pro-russes.
Et oui, les députés russes ont, je crois, surtout approuvé le fait de rester en vie.
Et puis il y a les brèves.
Et oui, 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 j'ai décidé de reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-brèves, Charline. Je suis désolé. Unilatéralement.
C'est une guerre qui se prépare.
C'est une guerre qui se prépare et on commence donc par cet événement.
Oui, Vladimir Poutine a donc ordonné à l'armée russe de rentrer dans les territoires séparatistes de l'Ukraine pour des opérations, je cite, de maintien de la paix.
Maintien de la paix en sortant l'artillerie lourde, le fantasme absolu du préfet Didier Lallemand.
Alors, quelles seront les réponses? L'Europe devrait d'abord se limiter à des sanctions ciblées contre la Russie.
Eh ouais, il va tout de suite baisser d'un ton, Vladimir Poutine, quand il va apprendre qu'on va le retirer du prochain concours Eurovision de la chanson.
Londres a également annoncer des sanctions qui frapperont la Russie très fort.
Ah ouais, coup dur. Là, vraiment coup dur pour Vladimir Poutine qui ne sera plus invité aux prochaines fêtes clandestines de Boris Johnson à Downing Street.
Passons à la politique française. Oui. Plus de 120 maires soutiennent l'initiative de François Bayrou pour que des candidats comme Mélenchon, Le Pen ou Zemmour obtiennent leurs 500 parrainages.
120 personnes qui soutiennent François Bayrou. Ça lui rappelle les heures les plus folles de sa carrière.
Et puis l'actrice Véronique Jeuneste a annoncé qu'elle avait choisi Éric Zemmour pour la présidentielle.
Et logique. Tous les grands candidats ont toujours eu les grands intellectuels à leur côté. Logique,
et oui,
logique.
Véronique Jeuneste explique, je la cite, « Je n'en peux plus de toutes les magouilles, des hommes qui ont fait de la politique leur gagne-pain. »
Ne nous emballons pas, ouais. Parce que si la campagne c'est comme un épisode de Julie Lescaut, au tiers de l'intrigue environ, elle croit avoir choisi le bon coupable, mais en fait non. Et en général, à la fin, elle se rend compte que le gentil, en fait, c'était le méchant, et inversement, ouais. Donc elle n'est pas à l'abri de voter Poutou dans quelques semaines.
Dans ces cas-là, on dit RIP Véronique Jeuneste, évidemment.
Oui, mais on savait pas qu'elle est encore vivante, c'est ça.
Valérie Pécresse était ce matin sur France Inter.
Alors écoutez, un auditeur lui a posé une question simple. En cas de deuxième tour Macron-Zemmour ou Macron-Le Pen, qu'est-ce qui se passe?
Au deuxième tour, vous n'êtes pas présente. Vous faites quoi? Vous prenez position pour quoi? Il ne faut pas me répondre, je serai présente au deuxième tour.
Voilà, question facile, et vraiment, il lui demande une chose. Il y a une réponse, il lui dit, j'aimerais bien qu'on n'entende pas cette réponse, pas se débiner. Alors écoutez bien, les blancs qu'on a gardés sont d'origine, on n'a rien raccourci.
Je vous remercie de votre question, mais personne ne va dans une élection en pensant la perdre, personne. Et donc, ma réponse est la suivante, je serai au deuxième tour.
Les élus, à un moment, va falloir répondre à cette question-là, hein, quand même. Parce que...
Bah non, parce que je serai au deuxième tour.
Oui.
Alors, je propose qu'on réécoute ce moment de radio du grand Léa Salamé. Elle est à ça de lui cracher dessus.
Ouais.
On nous le remet?
Oui.
Ouais. On embrasse Léa, évidemment, pour être complet.
Ça me rappelle quand je fais une mauvaise vanne.
C'est exactement le même.
Le matin, quand je fais une mauvaise vanne, qu'elle a côté, comme ça, voilà. Ouais. Moi, j'ai l'habitude, mais bon. Allez.
Pour être complet, Charline.
Côté Emmanuel Macron, il repousse encore l'annonce de sa candidature en raison de la crise en Ukraine.
Et oui, il va peut-être être en retard pour l'élection de 2022, mais il va être bien en avance pour celle de 2027.
On passe au bien-être animal. Oui. L'association L214 a dénoncé les conditions d'élevage des poulets Le Gaulois.
Et oui, et depuis Astérix, on le sait que Le Gaulois, son truc, c'est de maltraiter les sangliers. Et donc, il n'y a pas de raison.
On passe au sport. Neymar s'est rendu hier à l'avant-première du dernier film Batman à Paris. Il en a profité pour prendre la pause avec les stars du film et pour s'installer au volant de la célèbre Batmobile.
Oui, et on attend avec impatience l'avant-première du prochain volet des Tuches. On espère tous voir Franck Ribéry s'asseoir à côté d'Isabelle Nanty au volant d'une Renault Nevada.
Page People, car l'actrice Angelina Jolie a vendu ses parts du château de Miraval dans le sud de la France, et ce, sans l'accord de Brad Pitt.
C'est pas vrai. Et j'ai envie de dire, c'est pas joli joli.
Ah oui, mais oui.
Déborah fait non de la tête. Hein. Et moi aussi.
Allez,
non, parce que c'est la radio, on voit pas que vous faites comme ça, on prend les yeux, mais moi je le dis clair.
On a entendu que vous avez dénoncé, Manu Lacquer.
Léa Salamé, elle aurait fait.
Ouais. Attention, en Belgique, drame. Suite à la tempête Eunice, dans un parc animalier belge, une cigogne en voie de disparition est tombée dans l'enclos des lions. Il est arrivé ce qui est arrivé, donc elle n'est plus en voie de disparition, elle est disparue.
Et là,
c'est réglé.
Voilà, Et la dernière. 30 millions d'amis. Ouais.
Et la dernière, bah oui, États-Unis, il part acheter un poulet rôti et revient avec un ticket à gratter gagnant de 100 000 dollars. En gros, il est revenu avec un poulet rôti et sans patates.
Splendide. On enchaîne. Allez, Déborah Lukumwana est en notre compagnie. On va reparler du film Robuste tout à l'heure avec Léo Carman, bien sûr. On va aborder ce sujet que vous nous avez suggéré d'ailleurs. Le week-end étant propice aux loisirs, certains d'entre nous en profitent pour aller se balader en forêt avec un fusil pour dégommer tout ce qui bouge. En France, il est permis d'aller chasser accompagné dès l'âge de, c'est même 15 ans. Voilà comment une jeune chasseuse de 17 ans a tué accidentellement une randonneuse de 25 ans. La France, pro-chasse ou anti-chasse, est secouée. Et les seconds, les anti, demandent quand cette série noire va enfin s'arrêter.
Chasse, pêche, émiture, nous on respecte la nature, chevrotine, canoncier, canard d'essai, notre
match. Il est 6h du matin, le soleil se lève enfin. On va commencer doucement par une caisse de bière ou de vin blanc. Puis après pour s'échauffer, un vieux serin en arme blessé.
Chasse, pêche et biture, c'est un tube des Fatal Picard, bien sûr. Déborah Lukumwana, vous avez 27 ans.
Ouais.
C'est ça. Hein.
Ouais.
Vous avez votre permis de chasse depuis.
Oh là là, dénonciation en direct.
Mais dans ces cas-là, mieux vaut un éclat de rire qu'un éclat de chevrotine. Parce que la jeunesse fauchée par une balle perdue, c'est un sujet qui vous a secoué, j'imagine.
Ouais, totalement. Ouais. Déjà, de base, je suis vraiment, pour le coup, je suis assez intransigeante concernant la chasse. Et je suis. Il y a vraiment cette phrase hyper bateau, la liberté de l'un s'arrête quand celle de l'autre commence. Ouais. Et pour le coup, je trouve que déjà la chasse avant ces accidents présents désobéit à cette règle-là. Ouais. Et là, encore plus. Et en fait, moi, je suis apeurée par ces gens qui persistent du coup à déjà à appeler la chasse encore un loisir et du coup en parallèle de ça à ce qu'on se vante qui est pas le port d'armes ici comparé aux États-Unis. Mais moi j'ai envie de dire avec des accidents comme ça en fait l'étau se resserre énormément parce que la chasse est autorisée et du coup il y a des dégâts humains qui se rapprochent d'une défense par arme aux États-Unis et donc je suis intransigeante et je suis encore plus choquée parce que l'accident du coup de ce week-end, en fait, il y a deux vies brisées ouais. et deux jeunes femmes, une jeune femme qui a perdu la vie et une autre qui va la perdre en fait. Et je trouve ça déjà, moi je suis pas en colère après cette jeune femme, je suis juste hyper triste pour elle, ouais. Mais je suis en colère contre ceux qui veulent encore encourager la chasse. Mm-hmm. Enfin, ça suffit.
Ouais. Et qui délivrent des permis à l'âge de 15 ans alors que
oui.
C'est ça, c'est l'âge.
Alors, je me suis documentée justement. Alors. Vous avez le droit de passer le permis de chasse à 15 ans. L'examen dure 2 heures et c'est à 150 euros. Vous avez, je crois, des séries d'entraînement qui durent 2 heures aussi. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je ne sais pas si c'est l'État, mais en tout cas, un organisme estime que vous pouvez vous balader avec une arme sur un terrain dont vous n'avez pas la visibilité sur tout. Et du coup, vous pouvez tirer sans grande surveillance. Je trouve ça tellement fou et ça me fait tellement de peine qu'il y ait eu à avoir des accidents si dramatiques pour qu'on se rende compte enfin que. Enfin, stop! Ouais. Moi, pour le coup, je suis pas tempérée, quoi. Je suis pas tempérée.
On vous comprend très bien.
Vous avez pu le constater.
On soutient votre non-températion à ce sujet complètement parce que c'est pareil. Voilà,
lâchez cette arme, par contre, parce que c'est flippant.
Voilà, comme on peut chasser et avoir le permis à 15 ans, mais voter à cet âge-là, toujours pas. Et donc, ce serait pas bon que ça change. Monsieur Poulpe, alors, est-ce que vous auriez des choses à nous raconter aujourd'hui?
Mais bien sûr! Mais bonjour tout le monde! Bonjour. Et bienvenue dans cette chronique. Quel plaisir de vous retrouver, Charline. Vous m'avez manqué. Pour penser à vous, je regardais les étoiles filantes dans le ciel. Oh. Ça faisait une belle traînée.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Wow. D'accord. Léa Sélamé ferait moi. Ouais. Cette semaine, j'ai mené...
J'ai cru.
Cette semaine, j'ai mené une enquête politique digne de Mediapart. Alors, si vous connaissez pas Mediapart, c'est l'équivalent du magazine Guitar Part, mais sans les tablatures de Nirvana. C'est le problème. Donc, en ce moment, tous les yeux sont tournés vers l'Ukraine, à part les gens qui ont un strabisme divergent. Du coup, ils regardent en même temps l'Ukraine et l'Italie. Tu vois, ça, Guillaume, ça, c'est la géopolitique, mon pote. Enfin, c'est pas prendre un petit micro, aller sur les marchés, faire, ah oui, non, cette carotte, c'est pas l'État qui nous a mis une carotte. Non, ça, c'est du journalisme, en fait, Guillaume. Donc, moi, je suis journaliste professionnel, Déborah. Je vais vulgariser la situation en Ukraine pour clarifier, c'est qu'est-ce qu'il se passe-t-il dans cette région du monde. Donc, Emmanuel Macron est intervenu auprès de Vladimir Poutine pour empêcher l'annexion du Donbass. Et, j'aime pas critiquer, mais on peut dire que ça n'a pas très très bien marché. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Sauf que moi, j'ai trouvé un enregistrement audio exclusif de la conversation. C'est du chaud, 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 sa mère en termes de journalisme. Avec ça, Laurence Bloch, elle va trop me kiffer. Ça sera plus Walidia de mère de son petit chouchou, ça sera moi. Donc, on va écouter la cassette. Charline, si tu peux appuyer sur play, sauf si c'est trop dur pour toi, tu veux prendre à nouveau 3 semaines de vacances.
Non, mais c'est ma fête,
on va écouter la réunion secrète entre Vladimir et Emmanuel. Allez.
J'adore jazz, c'est super, merde. Entrez, vous êtes qui ?
C'est Emmanuel, le président de la France.
Tu as froid ? Tu trembles. Approche la cheminée.
Oui, c'est vrai que l'hiver est rude chez vous. Fait-il aussi froid dans les steppes que dans le cœur des hommes par ici ?
Ah, c'est les femmes, elles font du step. Vrais hommes font tout autre sport.
Alors que le jeune Emmanuel se rapproche de la cheminée, le solide Vladimir lui sert un verre de brandy. Emmanuel porte le liquide à sa bouche. Il entr'ouvre ses lèvres angéliques et fait couler le long de sa gorge cette liqueur aux notes cendrées. « Ouh, c'est fort !» dit-il. Cela amuse Vladimir, touché par cette innocence.
« On dirait tu t'es perdu, petit oiseau. »«
Petit oiseau ? A-t-on déjà vu un oisillon recueilli par un ours aussi puissant que vous ?» Je vous pose la question, Vladimir.
« Moi, j'ai question. Pourquoi toi, pas tué gilet jaune et anti-vax de merde ?»
Chut. Emmanuel posa un doigt fébrile sur la bouche de Vladimir. Intrigué par l'audace du jeune Français, Vladimir se laissa faire. Curieux de voir jusqu'où irait ce petit jeu, Emmanuel fait alors signe à Vladimir que des micros sont cachés dans le bureau. Les deux présidents se mettent à quatre pattes et suivent le câble du micro qui les enregistre. Ils déroulent alors des kilomètres de câbles, traversant des frontières, jusqu'à arriver au bout du fil, dans le studio de France Inter, où Poulpe fait sa chronique journalistique et incroyablement engagée. Oui, entrez, vous êtes qui ? Je suis en plein dans ma chronique.
C'est Vladimir Poutine.
Et Emmanuel Macron ! Oh mon Dieu, mais que voulez-vous ? Vous avez surpris mon enquête journalistique ?
On a compris ton petit manège.
Et t'as pas ton ticket, mon pote, par rapport au manège.
Ni deux,
les deux présidents pénétrèrent Poulpe à même la table du studio, devant le regard émoustillé de Déborah et Charline. Après s'être satisfait sur Poulpe, Vladimir essuya son membre vigoureux sur la veste de Léo Carman. Comme leurs sous-vêtements étaient souillés, les deux présidents jetèrent donc leur slip au visage d'Alex et Guillaume. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas résolu la crise internationale, mais ça reste un bon moment convivial pour épater vos amis. Merci Poulpe.
Monsieur Poulpe, ben voilà, Déborah, vous voulez tout comprendre à la crise en Ukraine avec Poutine. Eh bien, je pense qu'on a tout compris grâce à Monsieur Poulpe.
C'est là, c'est
vraiment, quel bonheur de se faire maculer de géopolitique. Mon Poulpinou, on te retrouve sur ta chaîne Twitch qui s'appelle Chez Poulpe. T'as été très vilain avec moi, mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Déborah Lukumwena est avec nous jusqu'à 18h. On parlera du film Robuste avec Léo Carman tout à l'heure. Il y aura aussi Guillaume Meurice. On a des sujets, on va parler rumba congolaise, on va revenir sur la chasse aussi. On écoute Feu Chatterton avec Cristaux Liquides sur France Inter.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? D'un vol des tourneaux, ça te plaît? Assoiffé de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Déborah Lukumwena, on écoutait Feu Chatterton et c'est tellement bien fait cette émission qu'on va parler chasse après Feu Chatterton
évidemment.
Avec Guillaume Meurice, donc ça va encore nous énerver cette histoire.
Mais oui, mais oui, chasse, parce qu'il y a encore eu un drame et on est tous étonnés. On est tous étonnés de ce drame. Des mecs bourrés avec des armes remplies de balles à sanglier au milieu des randonneurs. Comment ça pourrait mal se passer? On est sur le cul. On est sur le cul. Alors, en l'occurrence, il y a un peu de changement parce que c'est une fille mineure qui a tué une promeneuse. Parce qu'en France, on l'a dit, on peut chasser à partir de 15 ans. On peut pas voter. En gros, on peut choisir des blaireaux, mais on peut pas les buter. Alors, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà, pour résumer. C'est compliqué, la chasse. Willy Schrein, le patron de la chasse. D'ailleurs, il a dit, il faut qu'on travaille la communication vis-à-vis des promeneurs. Il a vraiment dit ça. Donc Willy, pour lutter contre la pédophilie, il dirait faut qu'on arrête les mini-shorts pour les enfants de 4 ans. Voilà, c'est la logique. La logique à Willy. Thierry Coste s'est exprimé aussi. C'est le lobbyiste des chasseurs, Thierry Coste. On l'aime beaucoup. C'est le grand copain de Macron. Parce que Macron, il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Il discutait avec Poutine pour qu'il fasse pas le con. Alors, je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché, effectivement. Alors, pour parler de tout ça, je suis allé traîner du côté des magasins de chasse ce matin pour faire, je dirais, un petit bilan.
C'est de père en fils qu'on chasse. C'est séculaire, hein, la chasse. Ouais, c'est une tradition. Hein, c'est...
Mais est-ce qu'on peut remettre en cause des traditions?
Non, je crois pas.
Non. Mais s'il y avait une tradition qui disait par exemple qu'il faut manger des rognons de chasseurs.
Ah bah oui, bah oui.
Voilà. Tant que t'es pas un renard ou une biche, la tradition de tirer sur des mammifères, elle est quand même sympa. Alors le problème, c'est qu'un humain aussi, c'est un mammifère. Et ça, j'ai l'impression que ça brouille un petit peu les pistes. Alors on continue avec un monsieur qui est plutôt pêcheur, mais qui connaît bien les chasseurs responsables.
Ils mettent bien qu'il faut pas y aller, il faut que chacun soit raisonnable. Parce que je vois qu'ils mettent des panneaux quand même, hein. Comme quoi ils sont en relâchage, c'est en cours.
Est-ce qu'une balle de fusil, ça respecte les panneaux?
Non.
Oui, alors ça, là, il y a un petit problème. Hein, là, il faudrait sensibiliser peut-être plus les balles de fusil à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'elles s'arrêtent pas, on n'a rien à foutre, les balles de fusil. Il y a une pédagogie à faire, et il y a des balles de fusil radicalisées. On peut le dire, attendez qu'on trouve des balles musulmanes, et la chasse est interdite dans le quart d'heure, à mon avis. Oh, en attendant, il y a ces fameux panneaux donc pour les promeneurs.
Il y a des panneaux de chasse.
C'est les promeneurs qui ne savent pas lire les panneaux, alors?
Ah, peut-être, je sais pas, mais tout le monde pratiquement aujourd'hui en France sait lire. Enfin, savoir lire, c'est très difficile. Tout le monde le sait. On croit savoir lire et on ne sait pas lire. Hein.
C'est les promeneurs analphabètes qui se font tuer.
Ben oui, nous sommes tous différents.
C'est ça, voilà, c'est ça aussi, c'est le problème de l'école. Enfin, faut prendre en amont, quoi. Les mômes n'apprennent plus à lire. C'est un problème qui est quand même global. C'est pas la faute des chasseurs qui, eux, ont une très bonne vue. Hein. Ils arrivent à différencier un Côte-du-Rhône d'un Beaujolais à plus de 4000 mètres. Ça fait partie des épreuves à l'examen. Donc, il faut faire de la prévention, même si on pourra jamais empêcher tous les accidents.
À partir du moment où il y a un accident d'avion, il faut interdire l'avion aussi alors. Les voitures, il y a des accidents. Combien de morts y a-t-il de voitures? Accidents de voiture, il y en a des centaines tous les jours. Bon, alors il faut supprimer la voiture aussi. Bon,
mais est-ce qu'un avion et une voiture, c'est destiné à tuer?
Ah, ce n'est pas destiné à tuer, non.
Et un fusil, problème. Alors?
Le fusil, oui.
Ouais, c'est bien ce qui me semble. Il y a une petite différence, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, personne ne chasse à l'Airbus A380. ça n'existe, on n'a pas vu. Hein, des gens qui louent un avion pour venir s'écraser sur les troupeaux de chevreuils, pour des raisons de coût, hein, d'ailleurs, essentiellement. C'est très cher, un A380. Toujours pas de chasse à la Kangoo non plus, ça n'existe pas. Mais bon... Il y a des accidents, mais je dirais comme dans chaque activité.
Chaque activité, elle engendre des accidents, forcément. Toute activité humaine, même vous, vous pouvez vous blesser en faisant votre boulot.
Je peux me prendre un coup de micro dans le...
Un coup de micro.
Il y a eu beaucoup d'accidents et de morts chez les gens qui font des micro-trottoirs.
J'en sais rien.
On n'a pas de statistiques. Et c'est ça qui est normal, on ne sait pas combien il y a d'accidents de micro-trottoirs tous les ans, parce que le lobby du micro-trottoir est très puissant. Son chef, Jean-Pierre Pernaut, ne dévoile aucun chiffre là-dessus. Alors, bon, les accidents de chasse, même si certains y voient un problème...
Mais non, non, vous nous faites rire. Une vipère, que vous allez dans la nature, vous êtes piqué, il n'y a plus de qui meurt de piqûres de vipère que d'accidents. Accidents, il y en a un combien.
Il y a plus de morts par piqûre de vipère par an en France que de la chasse.
Oui, parce que les gens se promènent dans les fourrés.
Oui, oui. Alors ça, c'est vrai, les gens se baladent dans les fourrés. Les chiffres sont faux, en revanche. Mais bon, les chiffres, vous savez ce que c'est, on leur fait dire ce qu'on veut, comme on dit à Levallois-Perret. Allez, il est temps de conclure avec la beauté de la chasse.
On a l'animal, c'est chouette de voir un biche ou un lièvre qui court, vous allez dire, ah, si je l'ai, un pigeon en l'air.
C'est chouette de le voir, mais est-ce que c'est chouette de le tuer?
C'est chouette, c'est un plaisir.
C'est un plaisir, c'est ça, il est là le plaisir, c'est ce plaisir qu'il faut préserver, le plaisir de buter, de dégommer, d'ôter la vie, que Macron soutient toujours, puisqu'il a baissé le prix du permis de chasse. Non, vraiment, on voit pas comment ça pourrait continuer à mal se passer.
En effet.
On est surpris de ça.
En effet, Guillaume.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va devenir?
Ça pourrait, mais on ne voit pas bien comment.
Inter. Merci Guillaume Meurice pour cette enquête qui nous a bien énervé. On a bien énervé Déborah avec cette histoire.
Oui, pardon, si je peux me permettre, oui, vous êtes allé, vous avez interrogé que des personnes un peu âgées.
Ah oui, c'est vrai que ce matin, il y avait pas mal de...
Ouais, oui,
j'étais dans un magasin chasse-pêche.
Oui, non mais du coup, pour moi, la cible parle beaucoup. C'est que forcément, il y a une déconnexion culturelle qui font que ça reste du gibier pour eux tous. Quoi.
C'est vrai. Il y a de ça.
Ouais, bon, alors, on attendra le prochain reportage avec des plus jeunes. Tiens.
Ah bah, il y en a de moins en moins quand même, des jeunes qui chassent.
Effectivement. On aborde cet autre thème sur l'Académie des Oscars qui propose pour la première fois au public de voter pour son film favori. Comme pour les César, le droit de vote n'est jusque-là confié qu'à des professionnels. Résultat, Polanski réalise le meilleur réalisateur la dernière fois. Alors, merci bien. Autre sujet. Les Oscars pourraient couronner un blockbuster. Et si les Césars s'ouvrent au vote du public, comment ça se passe? À quoi ressemble la cérémonie?
Qui souhaitez-vous voir en finale? Vous pouvez d'ores et déjà voter au 0897-66-2003 pour Michal. Tapez 1 et pour Pachi, tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS, y compris depuis la Suisse et la Belgique. Même principe, 1 pour Michal, 2 pour Pachi, 62-200, le numéro que vous devez composer avec votre téléphone mobile.
Et voilà, ce sera Nico Saliagas qui présentera les Césars, et non pas Antoine de Caunes qu'on attend donc vendredi soir pour MC de cette cérémonie. Alors Déborah Lukumuena, est-ce que vous trouveriez chouette qu'un prix du public, qu'on fasse voter le public au César? Pour l'instant, c'est réservé aux professionnels. Nous, on regarde ça à la télé, on trouve que c'est un peu l'élite et tout ça, et on se dirait, tiens, pourquoi pas?
Ah oui.
Ça nous tenterait?
Carrément, parce que je trouve que ça détruirait cet effet un peu messe, un peu papal du cinéma qu'il y a et qui, du coup, hyper excluant, parce que pour moi, il n'y a pas de cinéma sans public. C'est finalement le public qui fait la loi sur les succès ou non. Donc, l'inclure dans les votes et dans les choix et dans une victoire. Oui, bien sûr, absolument. Enfin, en fait, c'est assez logique avec ma vocation de faire du cinéma. Je fais des films pour qu'ils soient vus par des gens qui ne sont pas du tout concernés par le cinéma, mais si je peux les faire voyager. Et donc, de cette même manière que j'ai envie de les faire voyager, c'est de cette même manière aussi que j'ai envie qu'ils participent et que du coup, que ce soit quelque chose de beaucoup moins sectaire.
Ouais, contre soi. Ouais,
et ouais. Keyword sectaire.
Et vous qui l'avez vécu de l'intérieur, parce que vous avez décroché un César en 2018.
Je l'ai rendu à la fin, il n'était pas à moi.
C'est vrai. Oui, vous l'avez ressenti encore plus fort, ce côté un peu, comme vous disiez, grand messe.
Bah oui, forcément. Ouais. Quand je l'ai reçu, j'avais 22 ans. Et du coup, il y a ce truc où vous avez l'impression que la profession se tourne vers vous et vous dit voilà, bienvenue, une récompense. Et c'est vrai que moi, je cracherai absolument pas dessus. Cette récompense a changé ma vie et ma carrière, mais je peux avoir une récompense et continuer à avoir ce discours en disant qu'il faudrait que ce soit plus ouvert, que le cinéma soit moins excluant, et même sur le catalogue français
qui est proposé, oui, que ce soit beaucoup plus ouvert, quoi. Oui. Si il y a beaucoup de producteurs et d'exploitants qui se plaignent de la non-fréquentation des salles et qui mettent tout sur le dos du Covid, il y avait déjà ce petit problème avant que le Covid arrive. Donc le Covid n'a fait qu'aggraver les choses. Non, il y a aussi un problème au niveau du catering et de comment est vu ce milieu.
Et alors vous aviez reçu donc ce César et puis vous avez pris, vous êtes entré au conservatoire.
On se demande pourquoi.
Non, mais la question, vous avez fait, c'est plutôt amusant dans ce sens-là. Ouais. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, je suis professionnelle? C'est-à-dire que vous attendiez de quand vous avez reçu le César, vous n'avez pas encore tout à fait réalisé, il y avait encore un peu...
Non, en fait, c'était quand même un peu plus tôt avant le César. C'est vrai que quand j'ai vu l'ampleur que Divine a pris, c'est là où je me suis dit, ah oui, donc vraiment, on est dans un film qui est en train d'être... qui est dans l'industrie et qui est en train de faire son effet sur le public. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit que ça devient sérieux.
Ah oui.
Mais après, non, j'ai pris la décision d'aller au conservatoire parce que, et c'est, je l'ai prise après avoir eu le César, parce que j'avais pas fait d'école de théâtre et que je tombe amoureuse de ce métier. Je me disais que je voulais être la plus disponible et la plus, et me perfectionner dans mon art, en fait. Donc pour moi, ça coulait de source d'aller faire mes armes.
Déborah Lukumwena, eh bien, Léo Carman a vu Robuste qui sort en salle mercredi prochain.
Il y a parfois des rencontres étonnantes que seul le cinéma peut nous faire vivre avec délicatesse et pudeur, et celle-ci en fait partie. Tout de suite intrigante, elle réunit deux mondes apparemment opposés. Elle, Aïssa, est une jeune femme issue des quartiers, lutteuse de haut niveau et bien dans ses pompes. Lui, Georges, est une star de cinéma bourgeoise, traînant la patte, ayant remplacé sa fièvre de vivre par une faim de loup. Elle se lance dans la protection rapprochée des personnalités publiques. Il l'embauche temporairement pour remplacer son garde du corps. Déborah Lukumwena, Gérard Depardieu, incarne deux âges, deux milieux, deux visions du succès et du bonheur et les a priori qui vont avec. Mais une tendresse étonnante, immédiate, s'installe. En entrant dans sa gigantesque maison, Aïssa entre dans l'intimité de Georges, celle d'un homme profondément seul, fatigué, autant de lui que du monde, et qui n'a plus personne pour le rassurer. Elle le conduit, l'écoute, tient son agenda, et lui la réveille la nuit quand il panique, se laisse bercer pour se calmer, comme un enfant. Autour d'Aïssa, tout le monde s'étonne. Mais qui c'est cette célébrité qui lui prend tout son temps? Comment elle peut accepter ses conditions de travail? Mais ça la dérange pas, Aïssa, parce qu'en fait, elle aime s'occuper des autres. Aider sa sœur, écouter sa pote, satisfaire son crush du moment. Même gagner des matchs, elle semble faire davantage pour sa coach que pour elle. Elle donne de l'amour, comme une maman. Cet équilibre semble tenir jusqu'à ce moment capital dans le film, où Georges s'invite à un rendez-vous galant d'Aïssa et interroge le garçon sur ses sentiments pour elle. En voici un résumé.
Ah bah vas-y, réponds. Alors, tu l'aimes, oui ou non? Ah, tu l'aimes pas, voilà. Ah, voilà, et tu le sais très bien. Tu l'aimes pas, tu sais pas aimer, là. Tu sais pas ce que c'est qu'aimer, là. Un amour, hein, ça se mérite. C'est plus grand que tout.
Je sais qu'il m'aime pas. Vous croyez quoi? Je le sais. J'ai juste pas besoin de l'entendre. Et puis j'ai pas besoin de vous. Vous savez ce que c'est l'amour? Vous savez aimer?
Et c'est peut-être là que se situe le cœur du film écrit et réalisé par Constance Meyer. Si Aïssa conçoit l'amour dans le don et Georges dans le recevoir, ni l'un ni l'autre n'est à l'aise dans l'inverse. Leur rencontre, forcément brève par sa circonstance, Aïssa va vite être appelée à travailler ailleurs, suffira à les mettre face à cette contradiction. Et à cette question, est-ce que pour aimer et accepter d'être aimé, ne faut-il pas d'abord s'aimer soi?
C'est des poissons qui viennent des abysses. Ils vivent dans le noir total. C'est beau, hein? Non?
Je m'y connais pas trop en poissons.
Vous les trouvez moches?
Un peu difforme.
Un peu difforme, mais beau quand même.
Se trouver beau, s'aimer tel que l'on est, arrêter de se regarder dans la glace en s'insultant, accepter de se déshabiller dans les vestiaires, c'est par ces petites avancées, ces petites victoires que Robuste nous touche. Mais aussi par l'humilité avec laquelle deux acteurs et actrices acceptent cette mise en abîme déroutante, cette proximité à leur rôle qui les fait transpercer l'écran. On en ressort à la fois empreint d'une certaine mélancolie, comblé de tendresse, et avec cette pensée, n'est-ce pas là, quand on comprend l'autre malgré ses différences, que l'on se sent le plus robuste?
Il manque quelqu'un près de moi.
On rigole parce que vous avez
ému, Monsieur Poul. Et Déborah aussi, je pense.
Merci beaucoup pour ce texte, parce que même si j'ai tourné ce film, chaque jour j'en apprends plus et je suis très ému par votre texte.
Oh bah merci beaucoup.
Vraiment.
Léo Carman voit des choses que tout le monde ne voit pas. C'est vrai, et trouve les mots pour le dire. Merci beaucoup, Léo Carman, pour cette très belle chronique sur donc Robuste de Constance Meyer, avec Déborah Lukumona et Gérard Depardieu, entre autres, Lucas Mortier, Florence Janas, il y a d'autres acteurs, vous pouvez voir sur les écrans, donc mercredi prochain. Autre sujet, Déborah, Gims et Dadju sont chanteurs, ils sont frères et ils viennent d'être nommés ambassadeurs de la rumba congolaise par le président de la RDC, mais polémique. Et le public crie à l'imposture car Gims et Dadju ne sont pas chanteurs de rumba.
Ben non.
Et ouais, et ben voilà. Et le fait qu'ils aient élu domicile au Maroc aussi plutôt qu'en RDC, c'est assez moyen. En revanche, le fait qu'ils soient pétés de thunes pour créer un festival en RDC et construire un studio, évidemment, ça aide.
Voilà ce que ça donne, faire une bonne rumba. D'abord, le grand chanteur ne vient pas. Il y a d'abord un Akoto, un Ropero. Lui, il vient pour tester le micro. On a annoncé le concert pour 16h. Mais le chanteur principal va s'amener à 20h. C'est Ropero. Teste micro. Nyoso.
C'est l'humoriste ivoirien Willy Dumbo qui décrit visiblement très très bien la chose, parce que vous rigolez beaucoup.
Oui.
Et puis en décembre, la rumba congolaise est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc Congo Brazza et Congo RDC. Ça fait partie de votre culte. Double culture, hein. Et vous chantez, vous la dansez, la rumba, ou qui fait ça, Déborah?
Ah oui, j'aime vraiment ça. Ça fait entièrement partie de ma double culture. C'est la musique, ça a toujours eu une importance chez moi. On en écoutait tous les dimanches soirs, on se faisait des cassettes. Donc vraiment les grands chanteurs de rumba, Papa Wemba, Taboulé Rochereau, c'est vraiment du patrimoine. Donc même si je suis très heureuse de la destinée de ces deux autres artistes congolais, Dadju et Maître Gims. Je suis d'accord, ce n'est pas de la rumba ce qu'ils font.
Ah bah ouais, voilà.
Voilà.
Mais bon, alors après ça ouvrira peut-être des portes là-bas pour il y a un truc politique. Ça,
bien sûr. Charline est ambassadrice belge de l'humour. Et oui, pourtant voilà, personne ne dit rien.
Mais c'est vrai. Est-ce que vous avez aussi envie de vous êtes retourné quand vous étiez enfant, je pense.
Ouais.
Est-ce que vous avez envie de comme c'est une partie, enfin c'est, voilà, vous avez la double culture, la double nationalité, c'est une partie de vous. Vous avez envie de construire des choses ou de faire des choses artistiques en lien avec le Congo?
Ah totalement. Ouais. Je trouve que le déjà il y a tout un cinéma à développer autour de la culture congolaise et des films congolais. Et puis surtout, je trouve que la musique congolaise n'est pas assez, voire pas du tout utilisée dans les films et dans les et au cinéma, et je trouve qu'il y a tout un pan à créer. J'ai déjà des petites idées, c'est déjà en laboratoire.
Ah, c'est vrai.
Mais oui, bien sûr, j'ai tellement hâte, je me sens tellement chanceuse d'avoir cette double culture et de pouvoir naviguer entre les deux. La culture française m'a donné énormément, et même si je suis actrice en France et que je joue en français, le fait de venir du Congo et de parler la langue qui est lingala, je trouve que ça influence même dans ma manière de parler, dans mon phrasé et tout. Donc non, c'est trop bien la double culture.
Et c'est vraiment la rumba qui vous connecte directement à ce que vous
faites. Ouais, il y a
vous rumba, dansez ça.
Ouais, je danse énormément.
Même chez vous, en famille, je sais pas, c'est un truc qui réunit un peu le.
Ouais, carrément. Je trouve que, en plus, ce qui est bien, c'est que bon, non seulement ça réunit, mais il y a même pas besoin forcément de se parler. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se met à danser et ça suit et voilà. Ouais. Moi, je danse dans ma voiture. Je danse vraiment partout. Pas en conduisant.
Attention.
Pendant que vous
passez. Déborah Lukumona. On adorerait jouer avec vous un petit sketch.
Eh oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle.
Il n'y a pas de piège.
Non, il n'y a pas de piège. Vous postulez pour un emploi de attaché parlementaire. Parce qu'on a vu que notre ami Fabien Roussel doit se justifier après Pénélope Fillon. Est-ce que vraiment c'est un travail? On se rend donc à l'entretien d'embauche. Guillaume et Charline sont les RH de l'Assemblée.
Bon, allez, suivante.
Déborah, c'est à vous.
Bonjour.
Alors, c'est pour quel poste déjà?
Attaché parlementaire.
Ah oui, enfin là, c'est plutôt détaché parlementaire, j'ai l'impression.
Hein? Non, rien, c'est l'humour de RH.
Alors, dites-nous ce que vous êtes capable de ne pas faire.
Vous voulez dire ce que je suis capable de faire?
Non, parce que vous êtes capable de ne pas faire, bien sûr. Vous voulez bien être attaché parlementaire, non?
Oui.
Eh ben, il faut être oui. capable de ne pas faire les choses.
Tout en faisant croire qu'on les fait.
Mais en cachant qu'on ne les fait pas.
Voilà.
Ah oui, donc si je comprends bien, je dois faire croire que je fais quelque chose sans jamais le faire, c'est ça?
Non, ça c'est non. faire de la politique.
Oui,
ça.
Non, attends. Tu dois faire croire que tu fais des choses que tu ne fais pas tout en croyant que tu les as faites.
Bon, là, moi, je vous suis plus du tout. Vous pouvez m'expliquer tout en douceur?
Tout en douceur? Sup, évidemment.
Non, c'est de l'humour de RH.
Mais regarde, c'est simple. Tu aimes aller à la pêche.
Oui.
Tu aimes jouer au golf aussi?
En effet, oui.
Oui, tu aimes aller au cinéma?
Bah oui, mais c'est quoi le rapport?
Eh ben, t'as bouclé ta journée de lundi. 9h-11h, partie de pêche en rivière.
Ah, 13h-15h, golf.
À 16h, tu termines ta journée par un bon film à l'UGC. Ouais.
Mais
voilà.
À quel moment je bosse, moi?
Bah, t'as bossé?
Bah, de 9h à 18h.
Ouais. Bah évidemment, t'as passé ta matinée à étudier l'état des rivières.
Voilà. Bon.
Ensuite, t'as analysé l'impact du sport sur la santé de tes concitoyens, voilà. Tu vois, de terrain, et sans oublier le soutien au monde de la culture.
Alors, et donc, en fin de journée, je fais un bilan, une sorte d'inventaire, quoi.
Un inventaire TT. Inventaire TT. STT, vous l'avez ou pas?
C'est l'humour de RH.
Non, mais stop. Je comprends rien à votre humour de RH. Et puis c'est quoi le travail où je dois jouer à faire croire que je fais des choses? Je suis pas actrice, moi.
Oh, en plus, vous avez des colères, c'est parfait,
oh
ça.
Oh là là là, bah, c'est parfait, bah, vous prenez le poste, alors.
Le poste production.
Hein, qu'est-ce qu'elle
non,
raconte,
rien, humour d'actrice.
Et bim. Déborah Loukoumena, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On était très heureux de vous entendre. Et on peut vous voir, donc, ce sera mercredi prochain dans le film Robuste, premier film de Constance Meyer avec Gérard Depardieu, Lucas Mortier, Florence Janas, Steve Tiancheux, Théodore Leblanc, Sébastien Poudroux, car on mérite d'être nommés tous, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, les amis, d'avoir passé cette heure avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous dis. Oh, monsieur Poulpe.
Non, parce que vous avez nommé tous les acteurs, mais nous, vous n'avez pas nommé.
C'est vrai. Alex, Guillaume. On était bien entourés, Déborah. Oui, c'est une jolie mauvaise bande. On était gâtés. À demain, mercredi, pour un par Jupiclas avec Alex et Guillaume. Et
Les deux, là, au fond, ça ne vous intéresse pas ce que je raconte? Si? Alors je reprends pour les deux du fond.
Voilà, c'est tout moi, ça, c'est tout moi.